Bonsoir. C'est depuis quelque temps déjà, j'avais commencé quelque chose sur les attributs de Dieu. Et en fait, ce sont les perfections de Dieu, les attributs de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais bien parler sur l'amour. Dieu est amour. C'est quelque chose de merveilleux. C'est si Dieu n'était pas amour, si Dieu était juge, il est juste. Et on parlera un jour de sa justice. Mais si il n'était que juste, eh bien ce serait quelque chose de terrible. Parce qu'il ne faudrait pas tomber. Celui qui tomberait serait condamné tout de suite. Mais Dieu est amour. Et c'est sa nature même. On pourrait dire que tous les attributs de Dieu dépendent de son amour et sont baignés dans son amour. On ne peut pas parler de la justice de Dieu sans parler de son amour. Si on parlait de la justice sans amour, ça serait un Dieu dur. Et il y a des divinités païennes qui sont d'une dureté extraordinaire. Bon, ce sont des inventions, bien entendu. Mais l'homme n'a pas inclus dans les divinités l'amour. Et il est rare qu'il y ait de l'amour. Et même l'amour est si rare qu'il a fallu que Dieu nous parle de l'amour pour que nous comprenions ce qu'est l'amour. Et même en ayant des connaissances sur l'amour de Dieu, qu'est-ce que nous avons du mal à comprendre l'amour? Nous vivons dans un monde et une époque de trahison. C'est le monde trahi. Comme nous sommes dans une société de consommation et de désir de profit, donc l'amour n'est plus compris. C'est l'égoïsme. Et souvent, les gens pensent que l'égoïsme, c'est l'amour de soi. Mais en fait, c'est de l'amour de soi mal compris. On ne s'aime même pas. Parce que si on s'aimait bien, eh bien, on serait beaucoup moins égoïste. Parce qu'on comprendrait que nos intérêts ne sont pas de vouloir posséder et avoir à tout prix. Mais au contraire de partager, parce qu'il y a tellement de bonheur à partager. C'est une parole que nous avons lue il n'y a pas longtemps. Quelqu'un l'a lue dans les Actes des Apôtres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je crois que c'était la méditation de mercredi dernier. Donc, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est quelque chose de merveilleux, un amour immense, un amour qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Et cet amour, eh bien, a été partagé. Si vous regardez une petite souris de rien du tout, s'occupe de ces toutes petites, les bébés souris, mais il y a de l'amour. Je me rappelle, un jour, des ouvriers avaient trouvé dans un mur un nid de souris. Et bien sûr, les souris, on ne les cultive pas, comme on dit, hein. On n'élève pas les souris. Pas... Donc, ils avaient voulu détruire toutes ces souris. Et cette pauvre maman souris était sur sa couvée et elle l'a protégée. Pauvre petite bête. Bien sûr, elle n'a pas tenu longtemps. Mais elle essayait de protéger ses petits. Mais elle n'avait aucune chance. On ne pouvait pas douter que dans ce petit animal de rien du tout, il y ait de l'amour. Vous regardez des animaux familiers, des chiens, des chats, vous retrouvez de l'amour. Même une mère qui s'occupe, une mère oiseau qui s'occupe de ses oiseaux, une mère poule. Hein? On s'occupe de ses petits comme une mère poule. Ça veut dire s'en occuper avec amour. C'est une expression française typique. Je me rappelle de cette histoire. Il y avait eu un grand incendie dans une grange et le fermier, après l'incendie, se promenait dans les ruines. Et puis, à un moment, il a regardé et il a vu la carcasse d'une poule. Elle avait brûlé sur place. Et alors, il a donné un coup de pied dans sa carcasse et il s'est échappé de sous la carcasse tous les petits poussins. Elle avait brûlé en protégeant ses petits. C'est l'amour, ça. C'est l'amour. Et il y a des mères humaines qui sont capables d'un tel amour, hein? Je ne veux pas dire que les animaux sont extraordinaires. Les mères humaines sont aussi extraordinaires, bien que certaines manquent complètement à leur devoir d'amour. Mais néanmoins, il y a de l'amour, l'amour maternel. L'amour maternel. Il y a des enfants qui se sont éloignés et un jour ils parlent de l'amour de leur mère. Je me rappelle de l'histoire de ces deux hommes. C'était deux marins américains qui étaient sur un bateau de guerre. Ils avaient mené la bonne vie. Et puis ils étaient rentrés ivres, ils étaient ressortis ivres, et là ils étaient à la terrasse d'un café pour continuer à s'enivrer. Et puis, pendant qu'ils étaient en train de consommer, au début de leur consommation, ils n'étaient pas encore tout à fait ivres, il y en a un qui a commencé à fredonner dans son ennui, il a fredonné quelque chose. Et puis, l'autre lui a dit, qu'est-ce que tu chantes? Alors, celui qui chantait était rouge de confusion, il a dit, oh, fais pas attention, c'est rien du tout. Il a dit, si, je veux savoir ce que tu chantes. Alors, il a dit, mais non, c'est rien. Mais si, je veux que tu me le dises. Et il a dit, ben voilà, c'est tout simple, c'est un cantique que ma mère chantait quand j'étais enfant. Et j'étais, comme beaucoup d'enfants, à l'école du dimanche, et j'ai chanté ces cantiques. Et l'autre, il a dit, ben tu sais, moi aussi j'ai chanté ces cantiques, et c'est ma mère qui me les chantait. Et puis, ils ont dit, écoute, moi, je vais t'avouer une chose, cette vie, je ne veux plus la vivre. Et puis, tous les deux ont pris l'engagement de revenir au Seigneur. Simplement parce que leur mère leur avait appris un cantique. Le même cantique finalement, hein, mais c'est ce cantique, c'est l'amour d'une mère qui, dans la petite enfance de ces jeunes, leur avait chanté des cantiques. Et ces cantiques, eh bien, même dans la débauche, dans les dépravations, eh bien encore, ils s'en souvenaient. Et un jour, un cantique chanté par leur mère, par l'amour d'une mère, a dit non. C'est fini, on revient au Seigneur. Et c'est l'amour. L'amour dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Je me rappelle, je vais vous raconter encore une histoire, une petite histoire. C'était un médecin qui ophtalmologue à Téhéran. Et cet homme était chrétien. Il était chrétien, de famille chrétienne. Il avait fait ses études de médecine à Londres. Et alors, il était à Téhéran, et puis il y avait un homme qui le haïssait particulièrement. Et cet homme, eh bien, un jour, a eu besoin du médecin. Il faut jamais être fâché avec son médecin. Et alors, il a fait venir le médecin, et le médecin a soigné ses yeux. Et puis, comme il était chrétien, il a soigné avec patience et avec amour. Et c'est cet homme, pendant qu'il était soigné, blasphémait, lui disait des méchancetés, lui lançait des piques. Et puis finalement, eh bien, le médecin est parti et il est revenu la fois suivante pour refaire les pansements. Et de nouveau, il y avait ces paroles amères et ces paroles de dureté. Et ça a duré plusieurs fois. À chaque fois que le médecin allait, eh bien, cet homme parlait mal. Et puis un jour, au moment de partir, le chrétien s'est mis à genoux et il a relacé le lacet du soulier de la personne qui lui disait tant de méchanceté. Et alors là, c'était une surprise totale. Et cet homme-là s'est mis à pleurer et il a demandé pardon. Et plus tard, il est devenu chrétien. C'est l'amour qui avait vaincu. L'amour, et c'est un verset du Cantique des Cantiques, l'amour est plus fort que la mort. Vous croyez que la mort est forte? L'amour est bien plus fort. Quand quelqu'un est en train de mourir, il est difficile d'y échapper. On va dans la mort et on avance de plus en plus, mais l'amour est bien plus fort que la mort. L'amour est quelque chose d'extraordinaire. Notre monde parle d'amour et nous parlons d'amour. Mais en fait, nous ne parlons pas de la même chose. Si le monde parle d'amour, L'amour que le monde présente, c'est un sentiment. Nous, l'amour que la parole de Dieu nous demande et que nous devons exprimer, eh bien, ce sont des actions. C'est toute la différence. Ce monde parle d'amour. Nous, nous devons agir avec amour. C'est tout ce que nous pouvons dire sur l'amour, toutes les phrases et toutes les belles choses ne sert à rien. Le monde fait des promesses d'amour. Il y a des couples qui s'unissent au nom de l'amour, et j'espère qu'il y en a beaucoup. Mais ces couples ne tiennent pas parce qu'il n'y a pas les gestes d'amour, de respect de l'autre, du don de soi, de savoir céder même quand on a raison, parce qu'on aime la personne qui est en face de nous. Et c'est malheureux, mais ce monde a des sentiments. Et l'amour que ces gens veulent avoir, c'est l'amour que l'on me doit. On doit m'aimer. Je ne me sens pas aimé. Je suis mal aimé. Il y a les psychologues et les psychiatres ont des cabinets d'attente remplis de gens qui ne se sentent pas aimés. Malheureusement. Mais parce que on attend que l'autre nous donne de l'amour, alors que le premier geste, c'est nous. La première initiative, c'est celui qui désire être aimé, eh bien il fait le geste de l'amour, d'aimer. Et en fait, tout cela pour dire que Dieu est amour. Dieu a fait le premier geste vers nous. Dieu est allé vers nous. Dieu ne s'est pas contenté de dire, eh bien, je vous aime. Vous êtes merveilleux, c'est formidable, je vous aime. Mais ce verset est très important, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est l'amour de Dieu est de donner. Et l'amour de ce monde, c'est recevoir. Je veux recevoir. Je veux que l'on me donne. Mais l'amour de Dieu, c'est de donner. Et c'est très important de comprendre ce qu'est réellement l'amour. Beaucoup de chrétiens ont un malentendu avec Dieu parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire que aimer. Dieu est amour. Alors ils disent, mais Dieu ne m'aime pas. J'ai des problèmes, j'ai des difficultés, j'ai ceci, j'ai cela. Et on pourrait énumérer, énumérer, énumérer. Et ce n'est pas des tuiles qui me tombent, c'est les toits. On a l'impression d'être submergé. On se dit, mais comment? Dieu est amour et il y a tout cela qui m'arrive? Mais non, Dieu est toujours amour. Il y a l'ennemi de Dieu qui calomnie toujours Dieu devant nous. Il vient toujours nous faire douter de l'amour de Dieu. Toujours. Dieu a prouvé son amour. Son amour a été démontré d'une manière claire, d'une manière parfaite, d'une manière qui dépasse toute imagination. On ne peut pas faire plus que de donner sa vie. Et le Seigneur Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis. C'est quelque chose. Et le Satan essaye toujours de nous faire croire que Dieu manque d'amour. Mais il nous a prouvé à quel point il nous aimait. Et je peux dire que quand nous comprenons un tant soit peu ce qu'est l'amour de Dieu, on est subjugué. C'est quelque chose qui nous dépasse, c'est quelque chose qui nous met à genoux, parce qu'on se dit comment Dieu a pu m'aimer? Comment Dieu m'aime-t-il? Et on se rend compte à quel point nous sommes petits, peu de choses, nous sommes même des misérables, nous sommes des pécheurs, nous sommes même endurcis dans le péché souvent, et Dieu continue à nous aimer. C'est un amour sans fin, un amour continu, un amour qui est toujours à la même hauteur. Dieu nous a aimés infiniment au départ et il continue à nous aimer infiniment. Il poursuit son amour infini envers nous et vous dites, mais je ne comprends pas. D'accord, vous ne comprenez pas. C'est le bon mot. Vous n'avez pas compris. Mais ne dites pas que Dieu ne vous aime pas. On n'a pas compris ce qui nous arrive. D'accord, mais Dieu continue à nous aimer. Et Dieu nous aimera toujours, jusqu'à notre dernier jour et jusque dans l'éternité. Dieu ne cessera jamais de nous aimer au maximum de son amour. Jamais son amour ne fléchira. Dieu aime. Dieu est amour. C'est sa nature même. Il ne peut pas se refroidir dans son amour. Il ne peut pas nous oublier. Et il avait dit à Israël, quand même une mère oublierait son enfant, moi je ne t'oublierai pas. Et Dieu ne nous oubliera jamais. Et Dieu n'a pas oublié non plus Israël. Et je dis là aussi, parce que beaucoup de gens pensent qu'Israël s'est terminé et que Dieu est passé à autre chose. Mais c'est un blasphème, potentiellement un blasphème, parce que Dieu se serait lassé dans son amour pour Israël. Dieu aime toujours Israël et il veut faire grâce à Israël. Il veut intervenir. Et bien sûr, il y a des moments difficiles. Israël a vécu des moments très difficiles. Mais Dieu n'a pas cessé d'aimer. Dieu ne cesse pas de nous aimer, même si c'est difficile, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des tensions, même si l'ennemi se déchaîne, Dieu continue à nous aimer. Et ça, c'est notre plus grand secours, notre plus grand refuge. Dieu nous aime. Il nous aime infiniment. L'amour de Dieu, il y a des versets qui nous parlent de cet amour. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. Je me rends compte que je ne vais pas épuiser le sujet hein, ce soir. Mais pour une autre fois, on fera davantage, on fera d'autres choses. Mais Éphésiens 3, versets 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui seul la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ et dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Là, vous avez les dimensions de l'amour. Il y a une hauteur, il y a une largeur, il y a une profondeur. C'est plus que ce que l'on peut imaginer. C'est immense, immense. Dans l'infini, on peut dire, c'est une longueur infinie, une largeur infinie, une hauteur infinie, une profondeur infinie. C'est l'amour de Dieu qui dépasse toute connaissance. C'est Paul qui manque. Il dit, quand il parle de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance et en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est cette compréhension de l'amour. C'est l'amour immense, l'amour parfait de Dieu qui dépasse toute connaissance, toute imagination. Quand on comprend quel est cet amour, eh bien, il y a quelque chose qui nous remplit. La plénitude de Dieu, remplie de toute la plénitude de Dieu. Nous ne pouvons pas imaginer. Quand je lis ce passage, et même tout le trois premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens, il y a des mots où Paul fait une accumulation. Il ajoute un mot à un autre mot, à un autre mot, parce que les idées humaines sont tellement limitées pour parler de certaines perfections et de certaines choses, qu'il faut accumuler parfois des mots aux mots. Quand il parle de la puissance de Dieu, il est obligé d'employer trois mots qui, à eux seuls, chacun parle vraiment de la puissance. Mais il faut accumuler ces trois mots parce que la puissance de Dieu est au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. L'amour de Dieu dépasse toute connaissance. Et là, il le dit. Cela dépasse toute connaissance humaine. Et je peux dire même angélique. L'ange le plus intelligent, le plus parfait, qui a le plus d'intelligence, ne peut pas comprendre l'amour de Dieu. C'est quelqu'un a mesuré l'amour avec ses quatre dimensions ici, c'est la dimension de l'humanité. C'est le, en prenant Jean 3,16. C'est le, Dieu a tant aimé le monde et il a montré toute la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. C'est un amour qui dépasse, qui nous dépasse. Dieu cesserait-il de nous aimer? Ferait-il une exception pour vous, pour toi, pour un tel ou pour une telle? Je ne peux pas imaginer cela. Dieu ne cessera jamais de vous aimer. Ayez des doutes sur beaucoup de choses dans votre vie, pas sur l'amour de Dieu. Dieu a prouvé d'une manière complète qu'il nous aimait infiniment, que son amour était si grand et si parfait que nous ne pouvons pas le comprendre. Et même dans ce qui nous arrive, et il m'est arrivé de faire un peu le bilan de ma vie et de dire, voilà, tu as eu cet événement qui est arrivé, qui n'était pas très plaisant, et puis tel autre, et puis tel autre, et puis tel autre. Et puis, avec le recul, de me dire, mais c'est vrai que au travers de cette première épreuve qui est arrivée, suivie d'une seconde, d'une troisième, eh bien, ça a ouvert une porte pour ceci, et j'ai pu faire cela. Si je n'avais pas eu ce désavantage au départ, je n'aurais pas eu la motivation pour faire cette chose-là, ou je n'aurais pas pris cette direction. Et d'autres personnes ont été encouragées, bénies dans cette situation. Non, ce n'est pas négatif, hein. Vos épreuves ne sont pas négatives. Pas négatives du tout. Laissez Satan mentir tant qu'il veut. Calomniez Dieu. C'est ne vous joignez pas à lui. Aucune de vos épreuves, aucune des difficultés qui vous est arrivée était sans but et n'a été sans effet dans votre vie. C'est dans son amour que Dieu a permis ces choses-là. Même vous prenez l'expérience de Job. Job a été éprouvé plus que la plupart des humains de l'humanité, depuis Job jusqu'à aujourd'hui, ont été éprouvés. Mais l'amour de Dieu était toujours présent pour Job. Satan avait des limites. Dieu lui a fixé des limites. Au départ, il a fixé des limites, après il a repoussé les limites, mais il n'a pas repoussé à nouveau les limites. Il a dit, tu ne touches pas à sa vie. Tu ne peux pas. Ne fais rien de plus. Et il a fait tout ce qu'il pouvait faire, il a même eu du zèle pour lui faire du mal. Mais néanmoins, l'amour de Dieu était toujours là. Et quand Job a été réhabilité dans son premier état, alors il a pu se rendre compte à quel point il avait appris de choses et il avait appris à connaître Dieu. Il ne le connaissait pas bien, il le connaissait très mal. Et il pouvait dire, j'avais entendu parler de Dieu, maintenant mon œil l'a vu. C'est une expression parce qu'il n'avait pas vu Dieu avec ses yeux humains. Mais il y a, par exemple, vous avez entendu parler d'une certaine personne. Vous avez entendu peut-être beaucoup de bien, pas mal de choses. Mais si un jour vous rencontrez cette personne, eh bien ça fait toute la différence. Vous avez entendu parler d'une personne. Et maintenant, vous avez parlé avec cette personne, vous avez eu un entretien avec cette personne, vous avez eu un échange avec cette personne. Ça change tout. Vous la connaissez d'une manière que peut-être vous n'avez même pas imaginée. En entendant parler, c'était l'opinion de quelqu'un d'autre que vous aviez. Tandis que maintenant, vous avez votre propre opinion. C'est quelque chose de merveilleux que de pouvoir connaître Dieu de cette manière-là. C'est le but de Dieu de nous faire connaître sa personne d'une manière intime, profonde. Et parfois, dans les moments difficiles, eh bien, il y a la voix de Dieu qui vient parler, qui vient nous dire quelque chose. Il y a un encouragement, il y a une promesse. C'est dans un moment où j'étais vraiment dans une très 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 grande difficulté, j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu dans une angoisse terrible. Et Dieu m'a fait des promesses. Et m'a fait deux promesses pour ma vie. Pour ma vie. Et je les attends. Et si je n'avais pas été dans cette grande épreuve, jamais j'aurais eu l'énergie pour prier jusqu'à ce que j'obtienne une promesse. Mais il a fallu être dans une détresse très grande pour pouvoir obtenir ces deux promesses. Elle reste pour moi toujours comme une lumière et je dis, ça s'accomplira, parce que Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Mais il a fallu être éprouvé pour cela, parce que mon humanité est trop faible. Je suis trop petit, trop limité. Sans cette épreuve, jamais j'aurais même imaginé de demander cela à Dieu. Il a fallu que je sois dans la dernière extrémité, dans un moment très difficile, pour pouvoir oser demander et dire, voilà, il faut que tu interviennes. C'est dans notre vie chrétienne, on a des multitudes d'occasions de faire confiance à Dieu, de faire confiance à l'amour de Dieu. C'est notre responsabilité. Il y a des chrétiens qui sont une occasion de blasphème pour le nom de Dieu et qui blasphèment eux-mêmes. Et j'ai entendu parfois des réflexions de certains chrétiens sur Dieu. Je me suis dit, certains inconvertis pourraient le dire très bien, ça. C'est le douter de l'amour de Dieu, douter de la protection de Dieu, douter de la sagesse de Dieu. Dieu est tout cela. C'est quelque chose de merveilleux. Et nous sommes ses enfants. Nous avons, pour moi, j'ai le privilège d'avoir trois enfants. Et ils comptent pour moi. Et si Dieu est notre Père, nous comptons pour lui. Alors un Père humain est rien du tout par rapport à un Père divin. Si Dieu nous aime tellement, c'est au-delà de toute imagination, un Père humain, son amour est limité, tandis que l'amour de Dieu est infini. Il ne s'arrête pas à nos imperfections, à nos limites, à nos refus, à notre manière de. Nous n'avons pas été assez loin. Nous n'avons pas. Bien sûr, j'imagine que Dieu est déçu de ce que nous ne soyons pas allés si loin. Et je me rappelle de cette parole que le prophète avait dit au roi, mais tire des flèches par terre. Il avait tiré trois flèches. Il a dit, mais tu aurais dû tirer quatre, cinq fois, là, tu aurais eu la victoire. Mais tu n'auras que trois victoires. Mais Dieu, de temps en temps, il aimerait dire, mais pourquoi n'y as-tu pas passé plus de temps? Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas donné davantage? Il fallait avancer un peu plus. Tu aurais persévéré un tout petit peu plus, tu aurais obtenu. Dieu est un peu déçu, et même, je crois, même parfois beaucoup déçu, très déçu. Mais son amour n'a jamais cessé. Il nous aime toujours. Et il nous reçoit toujours. Dieu veut que nous nous approchions toujours de lui. Ne doutons pas de l'amour de Dieu. Vous pouvez douter de beaucoup de choses dans ce monde. Mais ne doutez jamais de l'amour de Dieu. Parce que le premier péché qu'il y a eu sur la terre est en quelque sorte un doute sur l'amour de Dieu. Et Satan a fait douter Adam et Ève de l'amour de Dieu. Il vous a privé d'un bel arbre qui avait un si beau fruit et qui peut ouvrir l'intelligence en plus. Il vous aime pas autant qu'il prétend aimer. Et malheureusement, en écoutant Satan, qui les haïssait, ils ont douté, il a fait douter de l'amour de Dieu et ils sont tombés. Et celui qui les haïssait a pris l'avantage. Il a pris l'avantage non seulement sur eux, mais sur l'humanité tout entière, simplement parce qu'il a fait douter de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Et si je peux vous dire, rendez grâce à Dieu, que Dieu, qu'il est amour. Répétez-lui, je te rends grâce que tu sois amour. Que tu m'aimes toujours, infiniment, que tu ne te lasses jamais avec moi, que tu prends soin de moi mieux qu'un père ou qu'une mère pourrait se prendre soin de moi. Bien plus, infiniment plus. C'est des pères et des mères, parfois on en manque. Il y a des enfants qui n'ont pas eu de père, d'autres qui n'ont pas eu de mère, d'autres qui n'ont eu ni père ni mère, mais ils pouvaient avoir Dieu. Et beaucoup d'orphelins, eh bien, ont eu comme père, un vrai père, Dieu, qui les a soutenus, qui les a fortifiés, qui qui les a encouragés. Ils se sont épanouis parce que ils avaient Dieu. Parce que nous, on a l'impression que maintenant, on est très très malheureux parce qu'il y a beaucoup de difficultés sur cette terre. Mais je peux vous dire, si vous lisez un peu l'histoire de notre monde, il y a eu des misères, il y en a eu des plus grandes que nous vivons aujourd'hui. Il y a eu des gens dans des deuils terribles, il y a eu des massacres, il y a eu des choses et des gens qui ont été vraiment dans des extrémités inimaginables et ils ont crié à Dieu. Ils ont levé les regards vers Dieu. Ils ont dit, Dieu, secours-moi. Et Dieu les a secourus. Dieu les a protégés. Dieu a veillé sur eux. Dieu les a entourés de ses bras. Dieu leur a dit des paroles de réconfort, d'encouragement. Et ces personnes, eh bien, ont été renouvelées et fortifiées. Pour quelles raisons? Elles ont mis leur foi en Dieu. Dans la réalité de Dieu. Pas sur des contes. Pas sur ce que les gens racontent sur Dieu, mais sur ce que la parole de Dieu nous enseigne sur Dieu. C'est très important de savoir ce que nous croyons sur Dieu, parce que notre vie chrétienne ne sera pas la même. Si vous croyez que Dieu vous aime un jour, que le lendemain il vous oublie, ou que vous donnez cette impression, eh bien, ou si vous pensez, dites Dieu est amour, et puis c'est quelque chose que vous avez, ce sont des paroles. Ce n'est pas quelque chose d'ancré profondément en vous, eh bien, votre vie chrétienne ne va pas être une vie chrétienne stable, une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne ferme où vous remportez des victoires, où vous avancez, où vous marchez à la gloire de Dieu. Vous êtes à la merci de quelqu'un qui dit, oh, vous savez, Dieu, de temps en temps, oui, de temps en temps, non. Et il y a malheureusement, et je peux le dire, des chrétiens qui vont jeter de l'eau froide sur votre feu et dire, oh là là, moi, la parole de Dieu, la Bible, je l'ai lue, mais bon, il y a à prendre et à laisser, hein. C'est, oui, il y a des promesses, mais moi, j'ai expérimenté que les promesses de Dieu, elles se sont pas réalisées pour moi. Eh bien, pour moi, je peux dire une chose, qu'elles se réalisent ou qu'elles se réalisent pas, ça reste la parole de Dieu, du Dieu qui est amour et qui m'aime infiniment. Et Satan laisse entendre toujours que les promesses de Dieu ne se réaliseront pas ou se réaliseront mal, ou elles se réalisent pour les autres. Mais ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Dieu veut réaliser ses promesses parce qu'il nous aime. Et son amour est infini. Son amour n'a pas de limite. Vous dites, mais je suis tombé, mais j'ai fait ceci, mais j'ai fait cela. Ça ne change pas l'amour de Dieu. Ça ne change pas l'amour de Dieu. En aucune façon. Ce qui change, c'est votre communion avec Dieu, pas l'amour de Dieu. Il y a quelque chose qui ternit la communion avec Dieu. L'amour de Dieu est toujours le même. Et Dieu regrette que la communion soit interrompue, qu'elle soit limitée, qu'elle soit brouillée pour un temps. Et vous, votre responsabilité, c'est de tout remettre en ordre pour que votre communion se rétablisse et que vous puissiez ressentir alors l'amour de Dieu. Vous ne le ressentez plus parce qu'il y a un mur, il y a quelque chose entre Dieu et vous. Et c'est cette chose-là qu'il faut enlever. Mais à partir du moment où elle est enlevée, c'est ne doutez pas un instant de l'amour de Dieu. Tout est rétabli, tout est parfait. L'amour de Dieu est infini. Il ne change jamais. Il est toujours là. Il est toujours présent pour vous. Dieu ne fait pas exception de personne. Il n'aime pas votre voisin ou votre voisine plus que vous. Il vous aime parfaitement, infiniment, tous, chacun individuellement, en propre. Il sait exactement qui vous êtes. Vous ne pouvez pas passer pour quelqu'un d'autre. Vous êtes exactement la personne que vous êtes, telle que vous êtes, eh bien, il vous aime. Vous dites, j'ai des limites. Très bien, c'est parfait. Vous le reconnaissez, c'est bien. Mais ça ne change pas l'amour de Dieu pour vous. Il est toujours parfait. Vous auriez été un être humain plus pécheur ou moins pécheur, vous avez toujours besoin de Jésus-Christ, vous avez toujours besoin que le Seigneur Jésus-Christ donne sa vie pour vous, c'était toujours nécessaire. C'est un grand réconfort que de lever les regards vers Dieu et de croire à son amour, de croire qu'il est toujours là, qu'il ne nous abandonne jamais, que quoi que nous ayons fait, sa main est toujours tendue vers nous. Nous allons prier. Oui, Père Céleste, nous voulons te remercier et te rendre grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, le Dieu éternel. Nous remettons nos vies entre tes mains. Nous te remercions pour ton amour infini. Nous te remercions parce que tu ne t'es pas lassé envers nous. Tu n'es pas fatigué de nous. Mais au contraire, Seigneur, tu attends notre retour. Tu attends que nous levions le regard vers toi, que nous reprenions notre vie chrétienne, que nous remarchions dans l'espérance et dans la confiance en toi. Nous te remercions pour toi-même, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
On va chanter une strophe.